Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Viens, Esprit Saint, nous éclairer en ce jour. Nous voulons entrer de plus en plus dans le mystère de la foi. Fais-nous grandir dans cette foi et que cette foi transforme nos vies pour devenir de plus en plus les saints et les saintes dont notre monde a besoin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, petit rappel de l'épisode précédent. Donc je fais un petit rappel de l'épisode précédent. Ensuite, on entre dans la préparation de Chalcédoine. Et puis à la fin, donc, je vous donnerai un texte qui synthétise un peu ce qu'on a pu dire sur certains points. Enfin, je vous le présenterai, je prendrai un peu le temps de vous présenter ce document. Alors, on se souvient, il y avait eu l'affaire de Nestorius, notamment à partir de 428. Nestorius, patriarche de Constantinople, un peu choqué par cette piété alexandrine, donc d'Alexandrie en Égypte, de vouloir parler de Marie comme mère de Dieu, qui est une piété qui date pas d'hier, mais qui se poursuit, et contre laquelle Nestorius a des réticences. Lui, il préfère bien distinguer et même séparer, finalement, la nature humaine et la nature divine du Christ. Et donc, ça, justement, cette séparation va créer tout le remous en Orient. Il va y avoir donc d'un côté ceux un peu d'Antioche, ceux autour de la spiritualité antiochienne et donc de Constantinople, et de l'autre côté plutôt donc Alexandrie et quelques autres. Ils vont s'affronter en quelque sorte au concile d'Éphèse, que Nestorius a demandé, hein, c'est Nestorius qui a fait appel au pape, etc. Et puis donc en 431, concile d'Éphèse, en fait donc c'est Cyril qui le préside, qui a un zèle dans la défense de Marie, mère de Dieu, et qui vont aboutir, enfin ça ne va pas aboutir exactement à une union au moment du concile d'Éphèse, mais à une victoire un peu de Cyril contre les autres. Et en fait, il va falloir un temps de réconciliation pour que finalement cette position soit adoptée. Donc avec, en 433, l'accord entre Jean d'Antioche, donc le patriarche d'Antioche, qui était plutôt de tendance proche de Nestorius, qui voulait bien, qui tenait à distinguer les deux natures en Jésus-Christ. Et donc Cyril, lui, qui partait de l'unité de la personne divine, du Verbe de Dieu, et qui a pris cher. Et donc les deux finissent par donc se faire un accord. Jean d'Antioche écrit à Cyril. Cyril lui répond en reprenant les termes mêmes que Jean d'Antioche a utilisés. Nestorius, qui n'a pas voulu s'amender, lui reste en exil et déposé. Il n'est plus patriarche d'Antioche. Et donc il y a une réconciliation un peu des deux, avec une sorte de compromis, on va dire, sur la théologie. Ce qui fait que pour certains antiochiens, des évêques qui sont proches de cette spiritualité qui distingue les deux natures, c'est un peu Cyril finalement qui s'est renié, parce que Cyril effectivement en a rabattu un peu sur ses exigences il avait anathématisé Nestorius à partir de certaines choses, et il voulait notamment qu'il reconnaisse qu'il y avait une seule nature en Jésus-Christ, parce que Saint Cyril d'Alexandrie concevait une nature comme nous on dirait une substance ou une personne. Donc pour dire, il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ. Donc c'est comme le mot n'était pas très bien défini, pour Saint Cyril, c'est ce que ça voulait dire. Mais il distinguait bien les deux, il disait bien que les deux natures finalement restaient... il disait pas deux natures, mais il gardait bien la distinction entre la dimension divine et la dimension humaine, mais il voulait parler d'une nature. Il en avait rabattu pour justement parvenir à un compromis. Et donc pour certains antiochiens, mais finalement, Cyril s'est renié, donc c'est une victoire un peu des antiochiens, pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt la victoire de Cyril. Enfin, bref. Et pour certains cyriliens, pour certains justement tenants vraiment de l'unité en Jésus-Christ et même d'une vision un peu d'une seule nature, Cyril s'est un peu renié aussi. Donc, il y a un compromis, on s'est réconcilié, on s'est rabiboché, mais il y a le feu un peu encore sous la cendre. Les acteurs de tout ça meurent dans les années qui suivent. Jean d'Antioche est mort en 442, Cyril est mort en 444. Donc voilà, quelques années, une dizaine d'années après le concile d'Éphèse. Nestorius, lui, il meurt plus tard, mais de toute façon, il n'est plus évêque, donc ça ne marche pas. Et donc viennent des successeurs à ces gens-là, et notamment à Alexandrie, un archevêque qui s'appelle Dioscore d'Alexandrie, qui lui va être donc beaucoup sur la ligne de l'unité, celle de Cyril, c'est l'unité des deux natures en Christ, et en forçant un peu la position. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à dire Jésus-Christ, il est de deux natures, mais en fait, après l'incarnation, il n'y a plus qu'une seule nature, qu'une seule nature divine. Avec un peu derrière aussi cette idée que, bah oui, mais s'il y a deux natures en Christ, humaine et divine, évidemment, l'humaine, elle n'est pas équivalente à la nature divine, et donc la nature divine, elle absorbe l'humanité du Christ, parce qu'elle est beaucoup plus importante, elle est, donc, même si elle est là, elle est plus vraiment là, quoi, donc elle est absorbée. Donc il y a un peu cette idée-là, et en fait, c'est beaucoup un moine de Constantinople qui va porter cette idée, un moine qui s'appelle Eutychès, c'est des noms compliqués, Eutychès, c'est E-U-T-Y-C-H, E accent grave, S, Eutychès. Oui, on le donne assez peu, ce nom, aujourd'hui. Oui. Dioscore aussi, remarquez. Ça va revenir, certainement. Là, on a les vieux prénoms du début du 20e, on va peut-être avoir les vieux prénoms du début du milieu du 5e. Donc, Eutychès, et lui, il va commencer à vraiment refuser publiquement justement cette consubstantialité dans le corps du Christ, enfin, consubstantialité à Dieu, oui, mais consubstantialité à notre humanité, non. Il va beaucoup le défendre, c'est quelqu'un qui a une grande piété, une grande influence parmi les moines, c'est un vieux moine, très pieux, pas très bon théologien, mais très pieux et donc très apprécié, voilà, ayant une grande influence. Et par ailleurs, il va être justement, il va avoir aussi une proximité forte avec un homme qui est à la cour, qui s'appelle Chrysaphe. Toujours des noms, pas à coucher dehors, mais c'est Chrysaphe, des noms inhabituels pour nous. Voilà, Chrysaphe, c'est Chrysaphe. Voilà. Tandis qu'à Constantinople, donc à succéder après Nestorius, il y a eu donc le patriarche Flavien, qui lui défend bien ce qui a été décidé à Éphèse, un peu aussi dans la continuité de cette distinction, mais il tient bien aux distinctions, mais dans l'unité, le Christ est de deux natures en une seule hypostase. Donc il y a bien deux natures, une seule hypostase, voilà. Et donc en deux natures. Il va y avoir donc, il entend parler d'Eutychès, qui est un des moines de son diocèse, et il va le condamner. Parce que du coup, il fait beaucoup de bruit, il défend beaucoup son idée, et puis un peu un moine un peu zélé, vous voyez, donc il commence à dire « Ah, bande d'hérétiques », etc. Et donc, il y a un procès, et donc il est condamné à cause de ce qui avait été décidé, notamment à Éphèse, au nom de ce qui a été décidé à Éphèse. Mais comme il a, comme ce moine a beaucoup d'influence à la cour par ce Chrysaphe, qui est en fait son filleul, et bien du coup, il va y avoir Théodose II, l'empereur d'Orient à l'époque, va défendre en fait Eutychès contre le patriarche de Constantinople. Donc alors, juste pour vous citer un peu le côté politique, vous vous souvenez que donc, les femmes sont très influentes auprès de Théodose II, sa sœur, sa mère, sa femme, et en fait, Chrysaphe va un peu évincer les femmes, et va avoir cette influence sur l'empereur, qui est un empereur assez faible, et du coup Chrysaphe va avoir beaucoup de domination sur cet empereur. Et donc c'est ce qui va donner un côté politique et un grand écho en fait à cette querelle. Donc Théodose II, lui, il dit, pour défendre Eutychès, qui est bien en cours à cause de Chrysaphe, il va convoquer un nouveau concile à Éphèse. Donc ça se fait en 449. Donc on n'est plus, c'est plus le pape Célestin à Rome, c'est le pape Léon qui entend parler de cette histoire assez tard. On l'informe assez tard, donc il n'est pas content qu'on l'informe assez tard. Et il dit notamment à Flavien, enfin Flavien lui écrit, Eutychès lui écrit, tout le monde écrit au pape à Rome pour dire voilà, il faudrait nous faire justice, etc. Mais il en entend parler assez tard. Au début, c'est Eutychès qui lui écrit le premier. Il voit le truc, il dit on va attendre un peu de voir comment ça se décante pour parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire de moine qui m'écrit pour demander justice contre son patriarche. Et donc il va un peu attendre, et ensuite il va avoir les nouvelles de Flavien, et ensuite de Dioscore aussi, etc. Donc Léon va commencer à écrire de son côté quelque chose pour répondre à Eutychès, et donc notamment cette idée de, voilà, il y a deux natures en Jésus-Christ, avec une théologie qui est propre à finalement l'Occident latin. Donc vous vous souvenez, donc il y a une théologie propre à Constantinople, qui appuie sur la distinction des deux natures. Il y a une théologie propre, une tendance théologique propre à Alexandrie, à l'Égypte, qui appuie sur l'unité en Jésus-Christ. Et puis, il y a une théologie propre à l'Occident, qui va arriver à bien travailler à la fois les deux natures en Jésus-Christ, dans l'unique personne, parce que la personne, l'idée de personne en Occident est plus dense, plus existentielle, plus concrète qu'en Orient. En Orient, vous vous souvenez, prosopone, c'est le masque, etc., et c'est un peu moins dense comme réalité. Et donc, quand on parle de unité dans la personne, on a l'impression que c'est une sorte de paravent, enfin, etc. Mais donc, on n'arrive pas à bien articuler les deux à cause du vocabulaire qui n'est pas en fait assez formé à l'époque en Orient. En Occident, il y a une tradition, notamment avec Tertullien, qui était un berbère d'Afrique du Nord, un père très important de l'Église latine, et qui avait beaucoup appuyé sur à la fois l'humanité, la divinité en Jésus-Christ. Il avait défendu beaucoup l'humanité en des termes très concrets, très beaux aussi. Et c'est cette tradition dont est héritier aussi le pape Léon, et aussi avec lui saint Augustin, qui était très influencé lui-même par Tertullien. Donc en fait, on voit émerger en fait une tendance théologique propre à l'Occident latin. Et en fait, c'est tout ça un peu qui va se mélanger, se frotter un peu, mais finalement permettre de résoudre un peu la question à terme. Donc Léon, il va travailler de son côté, avec ses propres armes théologiques, et il va écrire une lettre à Flavien, il va écrire une lettre à tout le monde, il va écrire à Théodose, il va écrire à la sœur de l'empereur, Pulchérie, et puis il va écrire donc à Flavien, il va lui faire un traité théologique, quoi, ce qu'on appelle le tome à Flavien, où il va vraiment expliciter vraiment tout ça, tout ce dont il est en train de parler, de manière très claire. Il va écrire à Théodose pour lui dire, bon, bah, c'est sympa d'avoir convoqué un concile, ça aurait été sympa de me prévenir avant, mais du coup je vais envoyer des légats, et je te remercie de veiller sur l'Église, j'espère qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière tout ça, etc. Donc, il fait ça. Le pape Léon, c'est juste pour vous donner aussi un peu la densité des personnages. Pape Léon, donc, gros bonhomme, Léon Ier, Léon le Grand, il a tellement d'autorité, vous voyez, qu'il était, quand il a été élu pape, il était en Gaule à ce moment-là, donc il n'était même pas à Rome, donc on l'a élu pape en son absence. Il était en train de régler des problèmes entre Aécius, qui était le général romain qui affrontait, qui, vous savez, qui a été victorieux d'Attila, et puis le préfet du prétoire en Gaule, donc il réglait des questions politiques hautes. Et donc il était en Gaule à ce moment-là quand il a été élu pape à Rome. Il est rentré, il n'a pas voulu aller en Orient, parce que ce n'était pas l'habitude, et puis aussi parce qu'il y avait Attila qui traînait dans le coin, et c'est lui notamment qui a défendu Rome contre Attila. Il est allé le rencontrer à Mantoue, et il a convaincu Attila de ne pas venir jusqu'à Rome, sans doute un peu avec des espèces sonnantes et trébuchantes, et puis un peu aussi parce qu'il y avait la pression justement des armées d'Aécius, et puis de l'empereur. Mais bon, toujours est-il qu'il est vraiment, enfin, c'est une figure solide, quoi. Aussi bien donc théologiquement que politiquement. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup défendre la primauté du siège de Rome. C'est un des premiers vraiment à beaucoup travailler cette question, et c'est tout à fait accepté, globalement accepté en Orient. Donc c'est ce pape-là qui écrit donc ce tome à Flavien, donc sur le mystère de l'incarnation, donc avec cette idée que chaque nature en Jésus-Christ conserve sans défaillance ce qui lui est propre. Question de réalisme de notre salut, c'est-à-dire que on ne peut pas, il faut que Dieu se soit vraiment fait homme pour nous sauver. Il faut vraiment que la réalité divine soit descendue jusque dans notre réalité humaine pour notre salut. Il ne s'agit pas seulement que ce soit une image, un décret un peu extérieur ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment que Dieu se soit fait chair, Dieu se soit fait homme. Et donc, on ne peut pas avoir juste coexistence de deux natures. Il faut vraiment qu'il y ait cette unité. Et en même temps, il ne peut pas y avoir non plus seulement la divinité, parce qu'il faut qu'il y ait cette humanité. Il ne peut pas y avoir. Donc, il va derrière cette idée de réalisme du salut, de l'œuvre du salut, ça va permettre d'avoir cette idée de nature qui conserve chacune en Jésus-Christ sans défaillance. Voilà, c'est bien dans le credo, voilà, le Fils de Dieu s'est fait chair, s'est fait homme, et il a été crucifié sous Ponce Pilate. Voilà. C'est le même qui est Fils de Dieu, et c'est le même qui a été crucifié, mort, et a été enseveli. Voilà. Donc il y a cette unité qui est très forte, et il s'est fait chair aussi. Et ça reste très fort aussi. Donc c'est quand même voilà, c'est très audacieux hein, de dire le Fils de Dieu s'est fait crucifier. Il est vraiment Dieu, et pourtant c'est lui aussi qui a été crucifié. Voilà, pleine consubstantialité de l'homme et de Dieu en Jésus-Christ. Donc, convocation à Éphèse du Concile. Donc Théodose II, il est dans la main de Chrysaphe et de Tychès. Et c'est Dioscore d'Alexandrie, donc je vous disais qu'il lui est très à forcer les positions de Cyril, donc beaucoup vraiment sur la ligne de Tychès finalement et de Chrysaphe. C'est Dioscore qui préside le Concile. Donc il est un peu parti et jugé parti, quoi. Il préside le Concile. Et en fait, très vite, Flavien, donc le patriarche de Constantinople, lui qui a condamné Eutychès quelques temps auparavant, il va arriver, en fait, il va être très vite mis en position d'accusé. Et en fait, Dioscore, plus aussi certains autres évêques, notamment, et puis certains moines, sont arrivés en force aussi, avec l'idée qu'on va mettre la pression sur le concile. Donc il y a, d'une part, Théodose II, qui a envoyé en fait, des hommes armés, plutôt pour défendre Eutychès et Dioscore. Dioscore est venu avec des escouades de moines. Donc vous avez commencé à comprendre que c'était les moines étaient, ils sont toujours prêts un peu à faire le coup de main. Plus aussi, alors ça c'est propre à Alexandrie, des dockers en quelque sorte, des marins. Et c'est le peuple très chrétien, mais un peu éruptif, voilà, combatif. En gros, ils amènent les dockers aussi avec eux. Et donc ils arrivent pour mettre la pression sur le concile, quoi. En disant, on va pas se faire avoir par ces nestoriens, ces affreux nestoriens, parce que pour eux, du coup, Flavien va être un affreux nestorien, parce qu'il veut encore diviser les deux natures en Christ. Pour lui qu'eux se considèrent comme étant, ils ont les mêmes mots que Saint Cyril d'Alexandrie, avec cette idée qu'il y a une seule nature. Même si Cyril, finalement, n'avait pas imposé cette question, il l'avait mise en avait rabattu, eux, ils disent, maintenant, il n'y a qu'une seule nature. Donc on est fidèle à Cyril, qui a gagné il y a quelques années au Concile d'Éphèse. Des questions non, je vois que vous faites des gros yeux. Vous ne comprenez pas tout vous...
Si je comprends, mais je me dis...
Ah.
Excusez-moi.
Mais c'est derrière, c'est la question théologique derrière ça. Hein, puis qu'on n'a pas encore réussi à... Donc, grosse pression sur le Concile. Le problème, donc, c'est que... Donc, Léon, lui, il ne parle certainement pas grec. Il a envoyé des légats qui, eux-mêmes, ne parlent pas grec. Et qui en plus sont pas évêques, donc il y a un diacre et deux prêtres, et donc ils sont obligés d'intervenir avec à chaque fois des interprètes, etc. Et puis en plus comme ils sont pas évêques, bon, en fait on les a déjà séparés en fonction, il y en a un qui est prêtre, l'autre qui est machin, donc on les a mis d'un côté et de l'autre, donc en plus ils sont séparés, donc ils sont pas, on les a pas considérés comme représentants du pape, mais en fait finalement chacun à leur rang qui leur est propre, donc c'est compliqué, ils ne parlent pas grec, ils voient tout le monde se dispute en grec, en plus en théologie, et puis comme déjà les termes ne sont pas bien fondés, enfin, vous pouvez imaginer le truc, totalement un peu dépassé. Donc eux, ils arrivent, ils se font dire par l'interprète, bah, nous on est arrivé avec le traité, le tome à Flavien que Léon voulait lire, justement, pour résoudre tout le monde. En fait, on ne va pas les laisser parler, et tout de suite, on va refuser qu'ils lisent leur truc, et on va tout de suite donc faire venir Flavien, et il va être en fait tout de suite condamné par le concile. Donc il va y avoir condamnation de ce qui se fait. Les légats au début vont pas tout comprendre, ils vont dire oui, non, enfin comme ils ne parlent pas grec, ils comprennent pas très bien ce qu'on veut leur faire dire. Et puis au moment où il va y avoir vraiment la condamnation en personne de Flavien, sa déposition, là ils comprennent. Il dit « Mais non, mais on n'est pas du tout d'accord. » Il commence à y avoir du tapage avec tous les gens qui soutenaient Flavien. Du coup, là-dessus, Dioscore, eh ben, il fait venir les hommes d'armes. Les portes sont ouvertes et tous les dockers et les moines entrent dans la salle du concile. Et donc, ça va être l'émeute totale dans la salle du concile. Là-dessus, Flavien va essayer de se carapater dans une salle. Même, alors certains récits disent qu'il s'est accroché à l'autel et qu'il a été tabassé par les dockers. En tout cas, il s'est réfugié un moment dans une salle, il va être fait prisonnier, il va être envoyé en exil, il va mourir en exil. Il va mourir sur le chemin de l'exil. Donc, du coup, certains disent Dioscore assassin, etc., parce que, en tout cas, il est mort des suites un peu du concile. Dans quelles conditions, c'est un peu trouble, mais en tout cas, il est mort des suites de ce concile. Et puis, pareil, les légats ont dû s'échapper aussi. Il y a un légat, donc, parce que, pareil, ils allaient être faits prisonniers, etc. Pareil, c'est assez trouble, mais on pense que Dioscore d'Alexandrie aurait pu, à ce moment-là, aussi excommunier le pape Léon. Et donc, les légats se sont un peu échappés aussi. Et il y a notamment le diacre Hilaire, qui a réussi à s'échapper et qui a dû rentrer par ses propres moyens à Rome quelques mois plus tard, voilà, et qui lui serait d'ailleurs un successeur du pape Léon, il va devenir pape à sa suite. Donc, vous voyez, donc, ça ne passe pas dans une manière très sereine non plus. Le pape Léon va parler de ce concile d'Éphèse de 449 comme un brigandage d'Éphèse. Donc, il n'est pas reconnu comme concile œcuménique par l'Église, du coup, à cause de ce coup de force qui a été fait. Donc, à ce moment-là, Flavien a quand même apparemment le temps de faire appel à Rome de la décision qui a été prise, plus que plusieurs autres évêques qui étaient d'accord avec lui. Théodose, à la demande, malgré les demandes répétées de Léon, va pas bouger, parce que lui, il va continuer à défendre Tychès, me dire non, tout s'est très bien passé dans les formes, il n'y a pas de problème, et c'est le problème de Léon qui n'a pas accepté le concile d'Éphèse. Finalement, en 450, donc tout ça, vous voyez, ça se passe 449, août 449. Flavien est fait prisonnier, à ce moment-là, au moment du brigandage d'Éphèse. Il va être envoyé en exil et il va mourir, on pense, en février 450, donc sur la route de son exil. Pendant ce temps-là, donc les diacres, les légats, etc., ont réussi à s'échapper. Ils arrivent certainement vers septembre-octobre à Rome et ils informent Léon de ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, il y a une réunion d'évêques, et c'est à ce moment-là, donc dans les mois qui suivent, que Léon va écrire à l'empereur pour essayer de régler la question. Puis en fait, il n'a aucune réponse. C'est sourd d'oreille en face. Donc, gros problème. Léon, il est avec son tome à Flavien, qu'il avait écrit avec son traité, que personne n'a voulu écouter. Tout le monde s'est excommunié les uns les autres. On a déposé le patriarche. Et puis finalement, donc on a trouvé un successeur au patriarche de Constantinople. Léon écrit à l'empereur en lui disant « Moi, je veux bien être en communion avec le patriarche de Constantinople, mais il faut qu'il dise la foi orthodoxe, quoi. Il faut qu'il soit d'accord avec mon traité que j'ai écrit et qu'il dépose ça. » Pareil, sourd d'oreille, Théodose ne veut rien entendre. Il y a un empereur en Occident aussi. Léon va faire intervenir l'empereur en Occident, sa mère aussi, Galla Placidia, donc l'empereur c'est Valentinien III. Il va essayer de les faire intervenir aussi. Ils vont écrire aussi à l'empereur et c'est l'empereur qui va leur répondre « Non, non, tout s'est très bien passé. » Il n'y a pas du coup tout de raison de revenir là-dessus. Donc vous voyez, c'est les mois qui suivent, donc 450, début du mois de 450. Et puis, donc, quand Léon écrit sa lettre à Théodose, notamment pour la question du nouveau patriarche, en fait, il ne va pas avoir de réponse parce que Théodose meurt d'un accident de cheval. Voilà. Pas d'accident de voiture à l'époque, mais il pouvait y avoir des accidents de cheval. Et donc, il meurt en juillet 450, et il n'a pas d'enfant, il n'a pas eu le... Donc, il n'y a pas de descendant. Donc, c'est sa sœur, en fait, Pulcheri, qui prend le pouvoir. Alors, à l'époque, les femmes étaient solides aussi. Donc, premier acte de Pulcheri, c'est de faire exécuter Chrysaphe. Voilà. Solution politique claire et nette. Donc, elle fait exécuter Chrysaphe. Et très vite après, elle se dit « Bon, du coup, il me faut un mari pour qu'il y ait un empereur à la tête de l'Empire. » Donc, elle va épouser de manière... Je ne sais pas comment on appelle ça, un mariage morganatique, comme ça. Hein. Donc, c'est-à-dire que... C'est quoi un mariage morganatique, déjà? C'est pas consommé, donc c'est ça. Donc, pas consommé. Un sénateur, un bon sénateur... Comment ?
C'est quand
l'Église n'a pas le mariage de Louis
XIV. Louis XIV avec
la... Ah oui, donc non, c'est pas ça. Donc c'est pas ça. C'est un mariage. Mariage blanc, oui. Non, pas mariage blanc, parce que c'est pas
ça. C'est un mariage religieux reconnu, mais qui socialement ne donne pas droit à être.
Ah oui.
Parce
qu'on sort, ah ben non, là c'est pas ça, c'est le contraire justement. Elle épouse justement un sénateur pour qu'il soit empereur, mais le mariage n'est pas consommé. C'est parce qu'elle veut, voilà. Donc c'est pas morganatique alors. Donc c'est, je sais pas comment on appelle ça. Bref, du coup, elle épouse un gars pour la fonction, mais pas pour les épousailles quoi. Et oui, un petit peu blanc. Ouais. Bref, du coup, elle épouse le sénateur, qui lui va être sur la position catholique avec Rome. Ils vont plutôt être d'accord avec le pape Léon, notamment. Donc ça va être l'empereur Martien. Alors ça ne s'écrit pas comme un Martien, les petits bonhommes verts. C'est comme Marc, mais avec I-E-N à la fin. Donc lui, il va devenir donc empereur en août. Donc Chrysaphe n'est plus de ce monde. Et donc Eutychès perd son filleul, son bien-aimé filleul à la cour et donc son soutien. Et donc Eutychès aussi finit emprisonné. Donc il passe de sa cellule de moine à une cellule de prison. Ce qui le fait perdre forcément beaucoup en influence. Donc tout de suite, ils s'écrivent entre Rome et l'Orient pour essayer de se mettre d'accord. Martien est très moteur pour cette réconciliation, grâce aussi à Pulcheri. Les évêques exilés sont rappelés. Et Martien il veut régler la question en reconvoquant un autre concile. Or, Saint-Léon, il dit... Bon, les conciles, ça fait quand même un peu de bazar. C'est sympa, mais c'est pas forcément la formule la plus sereine pour décider de quelque chose, quand même, parce qu'on a vu quand même les derniers conciles, ça s'est quand même pas toujours bien passé. Pour prendre des décisions, on a vu mieux. Donc, moi, je suggère plutôt de faire... Alors, si on fait un concile, de le faire en Italie, parce que ces orientaux sont quand même un peu agités. Donc, on le fera en Italie. Comme il y a Attila, Genséric, etc., qui tournent en Italie... Si on fait un concile, on le fait en Italie et on le fait plus tard, parce que pour le moment, il y a plein de monde qui ne sont pas désirés. Il y en a plein qui voudraient s'inviter et qui ne sont pas invités. Donc, on va peut-être attendre que ça se tasse. Et donc, moi, je suggérerais plutôt de ne pas faire de concile. Maintenant qu'on est tous d'accord, on va régler la question de manière disciplinaire sans avoir besoin de faire un concile. Et voilà, ce sera tout. On va régler les questions de personnes entre nous, pas besoin de concile. Donc, Léon, il écrit ça à Martien. Puis, en fait, du coup, Martien, il convoque quand même son concile. Il convoque, parce que c'est l'empereur, c'est lui qui convoque le concile. On aime le pape, on le respecte, mais c'est quand même pas lui le chef de l'Église. Et donc, il convoque un concile en mai 451. Alors, au début, c'est à Nicée. Donc, vous savez, pas très très loin de Constantinople, mais pas tout près non plus. Enfin, c'est un peu loin. Donc, Léon, il dit, bon, bah, d'accord, si t'as convoqué le concile, d'accord. Mais du coup, j'envoie des légats et ils vont présider le concile en mon nom. Parce que ça suffit de les trucs, là, on ne respecte pas mes légats. Donc, j'envoie des légats, il envoie des évêques qui sont un peu éloignés des zones de guerre qu'il y a à ce moment-là, donc qui ne sont pas trop occupés à gérer ça. Et donc, il envoie des évêques et qui vont présider le concile en son nom. Donc, ils vont à Nicée. Finalement, ça ne se fait pas à Nicée parce que l'empereur ne peut pas être présent parce qu'il est occupé par des guerres aussi au nord de Constantinople. Donc, finalement, ils vont le déplacer à Chalcédoine, qui est juste en face, sur le Bosphore, juste en face de Constantinople. Comme ça, ce n'est pas très loin de là où est l'empereur. Et donc, il peut passer à ce moment-là. Donc, ils vont à Chalcédoine. Ils ouvrent donc finalement le concile en octobre 451. C'est apparemment, pour l'époque, le plus grand rassemblement d'évêques qui ait jamais eu lieu. Donc, on bat tous les records. Alors, c'est pas très précis. C'est entre 360, peut-être 400, peut-être pour certains 600. Bon. En tout cas, il y a beaucoup d'empereurs. D'évêques, pardon. Donc beaucoup d'évêques, et c'est les légats qui vont donc présider ce concile. Donc vous voyez, c'est intéressant pour la question de l'émergence aussi de Rome et de la place de Rome. Vous voyez, tout le monde à chaque fois fait appel quand même au pape de Rome, il est très respecté. C'est de lui quand même qu'on attend la décision. Il va, le pape Léon, on peut l'appeler pour décider de casser les décisions d'un concile œcuménique, le brigandage d'Éphèse en l'occurrence. Vous voyez l'autorité quand même de l'évêque de Rome qui est quand même très important. Et assez même du côté d'Orient comme du côté occidental, on parle du successeur de Pierre, déjà à cette époque-là. Donc c'est assez intéressant.
Et malgré toute leur discussion, ils se considèrent encore unis sous l'autorité de ce pape de Rome ?
Alors, pas comme aujourd'hui, on dirait, pas de manière institutionnelle, etc., mais on dit que c'est quand même lui qui veille à la communion. On est quand même tous chrétiens, donc on doit être d'accord. Il y a pas, on ne se résout pas à ne pas être d'accord, donc on ne se sépare pas, etc. Et puis il y a l'empereur aussi qui agit beaucoup pour l'unité de l'Église, parce que c'est l'unité de l'Empire aussi. C'est pour ça qu'il veille beaucoup à l'unité aussi. Donc ça reste... enfin voilà, l'empereur veut cette unité, donc c'est, tout le monde... voilà, c'est des arguments assez forts aussi, quoi. Donc c'est les légats qui président et ils commencent en fait eux-mêmes directement par la mise en accusation, en fait la mise en procès de Dioscore d'Alexandrie. Puisque pour eux en fait la question théologique est réglée d'une part par la mort de Théodose II qui pourrissait un peu la situation et donc la décision de Martien de respecter le tome à Flavien finalement. Et donc il y a cette idée que la question disciplinaire théologique est réglée, donc c'est les questions de personnes maintenant qu'il faut régler, ceux qui ont opéré le brigandage d'Éphèse. Donc il va y avoir la mise en jugement de Dioscore d'Alexandrie. Il va y avoir donc les évêques qui avaient signé oui à Éphèse. Ils se défilent tous. Maintenant, ils disent non, mais on ne sait pas ce qu'on nous a forcé au brigandage d'Éphèse. On nous a forcé, on nous a fait violence. Alors tous ceux qui sont partisans de Dioscore disent mais gros lâche, vous avez si vraiment vous étiez pas d'accord, vous aviez qu'à mourir en martyr parce que sinon on résout plus la question. Donc bref, du coup c'est un peu agité quand même aussi. Dioscore, le patriarche d'Alexandrie, qui à ce moment-là, il va lâcher aussi Dioscore, et donc Dioscore va être condamné. On va réhabiliter Flavien, qui est mort, mais on va le réhabiliter. Mais il va y avoir, en fait, on va pas se mettre d'accord tout à fait au niveau théologique à ce moment-là. En fait, c'est des questions de personnes. Notamment, il y a Juvénal, qui est l'évêque de Jérusalem, qui...
Il est patriarche
de Jérusalem, pardon. Et donc lui, il va aussi quitter le côté de Dioscore, de manière assez théâtrale. C'est comme un peu le Parlement anglais. Ils étaient de deux côtés, comme ça. Il y avait Dioscore d'un côté et puis le légat de l'autre. Dioscore, qui était du côté... les Juvénal, qui étaient du côté de Dioscore, pour manifester qu'il lâche Dioscore, il se lève et traverse la basilique et va siéger de l'autre côté. C'est un peu comme quand Churchill changeait de majorité. Il avait changé plusieurs fois. Il prenait et hop, il passait de l'autre côté du Parlement. Donc c'est un peu ça qui se passe. Donc Dioscore, vraiment, est lâché. Mais en fait, ceux qui sont plutôt partisans quand même de sa théologie, ils vont dire d'accord, Dioscore, on l'a condamné, mais en fait, c'est plus pour des questions disciplinaires, parce qu'il a usé de violence, parce qu'il a excommunié le pape, et tout ça, c'est pour ça qu'on le lâche. Mais au fond, il avait quand même pas tort. Enfin, voilà. Donc, ces questions-là, encore, on a du mal à se mettre d'accord. Ils sont un peu réticents à la formulation ça leur est étranger, un peu les formulations justement qui parlent des deux natures, etc. Donc, ils vont lire le texte de Léon à Flavien. Ils vont tous s'exclamer, voilà, Pierre a parlé par Léon, etc. Donc, tout le monde est d'accord. Puis finalement, le lendemain, il y a encore du jeu. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que Léon ne voulait pas de concile, parce qu'en fait, il y a des effets de groupe, des effets de masse, et puis des effets d'enthousiasme, et puis tout d'un coup, retournement d'enthousiasme avec les mêmes qui étaient la veille, etc. Pour ça que Léon ne voulait pas de concile, parce qu'il dit, en fait, on n'arrive pas à bien bosser, on est trop nombreux, c'est pas une ambiance sereine. Donc en fait, l'empereur va arriver, Martien, et il va imposer en fait une commission restreinte pour régler la question. Donc ils vont avoir, en gros, un représentant de chaque tendance, avec les légats, etc. Ils vont se mettre dans une petite salle, ils vont bosser le texte, et ils vont trouver en fait une formule de compromis qui va leur permettre de se mettre d'accord, et donc finalement, effectivement, donc, de tous se mettre d'accord. Donc dans le Christ, de nature unie, sans confusion, ni changement, ni division, en un seul Fils unique, notre Sauveur. Voilà. Et donc Dioscore est déposé par les légats et le concile, et il est exilé en Paphlagonie. Oui, j'ai appris l'existence de la Paphlagonie à cette occasion. Et voilà, la Paphlagonie, c'est en fait au nord de la Turquie actuelle, sur les rives de la mer Noire. Voilà, donc il est exilé là-bas. Je ne sais pas, oui, sans doute. Je ne sais pas s'il faisait des baignades dans la mer Noire, mais toujours, il est quand même déposé de son siège d'Alexandrie, donc ça ne devait pas être... Ça peut être très drôle. Il y a plein d'histoires. À ce moment-là, il y a donc notamment les évêques. Donc, comme l'évêque d'Alexandrie est déposé, il y a tous les évêques suffragants, donc les dépendants de l'évêque d'Alexandrie. Ils veulent surtout pas rentrer en Égypte avec la décision du concile, parce qu'ils viennent de renier un peu leur évêque. Ils disent, mais si on rentre, on va se faire étriper par nos moines, quoi, et nos dockers, vous savez. Donc, ils disent, on veut pas rentrer. Donc, au début, ils réservent leur décision, etc. Ils attendent d'avoir en Égypte, ils aient décidé d'un nouvel évêque pour pouvoir le suivre, etc. Enfin, donc il y a quand même, vous voyez, encore une fois, ces décisions qui ne sont pas hyper sereines. Malgré tout, donc on prend cette décision-là et on s'arrête sur cette décision. Donc de nature unie, sans confusion ni changement, ni division. Voilà. Et donc ça permet de garder et la consubstantialité du Christ avec notre humanité et sa consubstantialité avec notre divinité. Donc voilà comment s'achève un peu nos quatre conciles, et donc l'addition après va être appliquée donc partout. Voilà pour ça. Alors, je vous fais passer maintenant les synthèses un peu de tout ça. Vous allez retrouver un peu les formulations. Donc c'est assez dense. Alors je vous ai mis donc ce dont je vous avais parlé, les références bibliques sur la Trinité. Parce qu'on avait parlé de ça un moment, là, parce qu'on a parlé beaucoup de dogmes, d'histoires, de la façon dont sont prises les décisions. Voilà. Donc je vous ai mis une petite collection de citations bibliques qui permettent de dire que c'est pas tout ça ce n'est pas seulement une élaboration théologique un peu perchée, mais c'est assis sur des citations bibliques. Je vous ai mis d'abord la deuxième épître de saint Paul aux Corinthiens, qui est un des exemples dans les épîtres d'une doxologie trinitaire. Dire que, donc vous savez, les épîtres, ce sont les textes les plus anciens dont on dispose dans le christianisme. Et donc, elles ont été écrites avant les évangiles. Et donc, on voit à travers ces lettres, eh bien déjà, la façon dont le christianisme était vécu à cette époque-là. Et donc, on voit notamment la doxologie à la fin, voilà. Donc, il salue tout le monde, frères, soyez dans la joie, etc. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, on voit qu'il y a déjà cette trinité qui est vécue. Elle n'est pas explicitée, il n'y a pas un traité théologique trinitaire de saint Paul sur la question, mais elle est déjà vécue dans la pratique avec cette doxologie. On en retrouve d'autres, je vous ai pris celle-ci, mais on en retrouve d'autres dans les épîtres. Ensuite, je vous ai mis donc dans le Nouveau Testament quelques exemples, notamment la finale de Matthieu, au nom du Père, au nom singulier, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, un seul nom pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc là, on a aussi finalement la pratique baptismale qui est là. Voilà, le baptême du Christ, la transfiguration, plusieurs passages de Saint Jean qui sont très explicites. Donc le prologue, « Commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, etc. » Voilà, plusieurs exemples. Aussi le moment que je trouve assez fort, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus de Juifs, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. » Vous voyez, c'est déjà présent en Jean 5, vraiment là. Donc d'autres passages, la prière sacerdotale. Et ensuite, eh bien, en fait, à la lumière de cette révélation de la Trinité dans le Nouveau Testament, on peut relire des passages de l'Ancien Testament à la lumière de la Trinité. Ce n'est pas l'objet de l'Ancien Testament. L'objet de l'Ancien Testament, c'est de parler plus du Dieu unique. Mais en fait, à travers plusieurs passages, on peut retrouver finalement cette trace de la Trinité. Voilà, les premiers mots de la Bible, notamment, hein, « Dieu créa le ciel et la terre ». Et là, la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, Dieu dit. Voilà. Donc on retrouve l'Esprit, la parole et le Père, le Créateur. Voilà, le chêne de Mambré, vous savez, qui représente, qui a inspiré la Trinité de Roublev avec les trois anges, qui est une des représentations les plus courantes de la Trinité. Voilà, puis d'autres passages, notamment dans le prophète Daniel aussi. Ensuite, derrière, je vous ai mis quelques citations du catéchisme. Le catéchisme de l'Église catholique sur la Trinité. Vous connaissez cet ouvrage, hein, le catéchisme de l'Église catholique, hein, il existe en plein de formats différents, en livre de poche, en gros format, etc. C'est quelque chose qui a été écrit en collaboration Jean-Paul II et Benoît XVI pour... Voilà, ce catéchisme de l'Église catholique, donc c'est l'Église de l'Église de Rome, qui permet d'avoir dans un livre, en gros, tout le condensé de la foi chrétienne. Donc vous avez tout un passage sur le credo, c'est en trois parties en gros, tout un passage qui explicite le credo, tout un passage ensuite qui explicite les 10 commandements, donc la foi, la morale et la prière, le dernier avec tout un traité sur la prière. Voilà, c'est un ouvrage très complet, et quand on a des questions un peu qu'on se pose, on peut... c'est un ouvrage plutôt accessible, il y a des grosses lettres et puis des petites lettres quand on veut approfondir les choses, enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très bien fait et qui est pas mal à avoir quand on se pose des questions. Donc je vous ai pris quelques extraits là-dessus pour justement la question de la Trinité et de voir comment ça marche entre elles, entre les personnes. Donc vous pouvez revoir un peu tout ça sur la question de la substance, sur la question des personnes, la question de la nature, la question de la relation les unes aux autres. Puis je vous ai repris un peu la succession des conciles pour voir justement quelles ont été les décisions, comment ils ont été provoqués, donc Arius, Pneumatomaque, Nestorius, Eutyches, donc les différents adversaires en fait qui ont suscité les conciles, et quelles ont été les décisions et qui ont été prises au cours de ces différents conciles pour voir comment se sont élaborées justement donc ces choses-là. Voilà. Et donc pour conclure juste le concile de Chalcédoine, voilà, on peut juste les lire les trois dernières lignes. Donc un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne et une seule hypostase. Voilà. Sans confusion, sans division. Voilà. Donc sans confusion, c'est cette idée monophysite, c'est-à-dire la confusion des deux, mais sans division, ça ce serait contre le nestorianisme qui divise les deux. Et c'est intéressant aussi pour nous ce qu'est l'Église, parce qu'on pourrait se dire à travers tous ces épisodes-là aussi, soit on perd la foi en disant la façon dont la foi s'est élaborée avec des combats de moines et de dockers, c'est quand même pas très édifiant. En plus avec des évêques déposés, etc. On pourrait se dire c'est pas joli tout ça, et ça pourrait éprouver un peu notre foi. Et bien en fait aussi dans l'Église qui est le corps du Christ, et bien nous avons ce mélange aussi. Il n'y a pas de confusion. L'Église n'est pas que divine, avec comme s'il y avait une confusion ou une absorption de l'humanité dans la divinité, comme si on devenait angélique dès qu'on devenait chrétien. Et en même temps, il n'y a pas de division non plus. Donc, c'est-à-dire que la divinité travaille notre humanité et elle nous purifie aussi. Et donc, l'humanité est bien là, avec ses côtés pécheurs, ses lourdeurs et ses inerties, ses questions de personne, ses questions d'intérêt parfois, ses questions de culture qui ne se comprennent pas, etc. Et en même temps, c'est cette humanité-là, aussi dans cet aspect social, que le Christ a assumé pour la purifier, la changer et la tourner vers Dieu. Et donc, on voit typiquement ça dans cette histoire, à la fois donc quelque chose de très, très humain, peut-être trop humain à notre goût, et puis en même temps aussi une purification et quelque chose qui s'élabore et grandit malgré tout à travers ces vicissitudes de l'histoire. Donc j'espère que ça ne vous fait pas perdre confiance dans l'Église, mais que ça peut vous montrer aussi notre propre chemin personnel. C'est-à-dire comment la parole de Dieu agit, me transforme, transforme aussi mon regard sur les choses, et puis comment elle peut me permettre, et comment aussi au niveau de l'Église, cette parole travaille aussi les hommes, les sociétés, aussi à chaque génération. Voilà. Et aussi, quand on fait de l'histoire de l'Église, souvent on dit ça permet quand même de pas mal relativiser finalement certaines situations dans lesquelles on est parfois. On se dit l'Église a traversé bien aussi des chaos, des divisions, et que finalement les choses arrivent à se faire. Ça prend du temps, mais en même temps, quand on est dedans, on peut, ceux qui ont vécu ça pouvaient se dire Oui, c'est pareil, à l'époque, quand il y a eu trois papes au moment du grand schisme d'Occident, on pouvait se dire waouh, c'est la fin du monde, c'est la fin de l'Église, tout est foutu, etc. Et bien, pourtant, un peu avec le temps, les choses jouent aussi, mais il faut prendre un peu, ça permet de prendre un peu de distance et de relais, de redonner à chaque chose sa juste place. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Ouais.
Vous avez dit que le pape de Rome, il était. Reconnu comme étant successeur de Pierre, pourquoi lui?